bienvenue dans cette émission. Vous allez nous excuser pour le retard. Le bilan provisoire du naufrage qui s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi 14 octobre au large de la ville de Mandaka fait état d'environ 40 morts et plusieurs disparus. Les HB Mapamboli, l'embarcation en bois qui a coulé, se rendait à Bolomba Centre. Elle a été particulièrement remontée afin de faciliter les recherches de nombreux corps encore enfouis sous les eaux du fleuve Congo. Au lendemain de ce naufrage, le vice-gouverneur de l'Équateur a sollicité l'appui de l'exécutif national. Il l'a fait lors de sa descente dimanche 14 octobre au port de Mankita où se produit ce drame. Taylor Ngandi a indiqué que cet appui va leur permettre d'assister les rescapés ayant tout perdu et faciliter leur retour à Bolomba, leur lieu de provenance. Abordant la question de ce naufrage au cours du Conseil des ministres de vendredi dernier, le président de la République, Félix Tshisekedi, a demandé au gouvernement de capitaliser le fleuve Congo et les rivières comme les prolongements des routes afin de couvrir tous les territoires nationaux, rapporte le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya. Quelle est l'affaire de cet énième naufrage sur le fleuve Congo et quelles pourraient être les mesures pour prévenir ce type d'accident? C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre ce soir dans cette émission. Et nous recevons ici au studio M. Didier Mukoma, il est membre de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, secteur des armateurs. Bonsoir M. Didier Mukoma.
Oui, bonsoir Monsieur le journaliste, bonsoir à tous. Bon, qui suivent la radio Okapi.
Merci. Fabien Mungunza, il est président du cadre des concertations de la société civile de la province de l'Équateur. Bonsoir, monsieur Fabien Mungunza. Voilà, on me dit qu'il n'est pas encore là. Serge Pangou, il est professeur d'université, il est géographe et hydrologue. Bonsoir, professeur Serge Pangou.
Bonsoir, monsieur le président.
Bienvenue à tous une fois de plus à cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Nous l'avons dit, les autorités de la province et de l'Équateur ont rendu public hier dimanche le bilan officiel provisoire du naufrage de la baleinière HB Mapamboli de vendredi soir au large de la ville de Mbandaka. 28 morts, 189 rescapés, une centaine de disparus. Cependant, les sources indépendantes parlent de 38 à 40 morts pendant que les recherches se poursuivent. Le gouvernement provincial dit avoir mobilisé les moyens localement et pour l'enterrement des corps et solliciter en même temps l'intervention du gouvernement central. Paul-Richard Malengela pour le détail.
Ce dimanche, le port Mankita, où se produit le drame vendredi soir, a été à nouveau envahi par plusieurs familles déplorées. La baleinière Mapamboli ayant été en grande partie tirée des eaux, certains ont espéré par cette manœuvre voir surgir des corps qui étaient enfouis dans l'eau. Mais à peine une dizaine seulement ont flotté ça et là, ont indiqué des témoins et ceux qui les ont récupérés. Le vice-gouverneur de l'Équateur s'est rendu sur les lieux. Taylor Ngazi a annoncé quelques dispositions prises par son gouvernement, lequel a mobilisé des pirogues motorisées en vue de poursuivre les recherches en aval de la ville. Il a également remis quelques cercueils et sacs mortuaires aux agents des actions humanitaires, appuyés par la Croix-Rouge, pour l'enterrement digne des victimes. Mais faute de garder longtemps les corps à la morgue, l'autorité provinciale a décidé leur inhumation dimanche après-midi. Entre-temps, l'identification des rescapés et des familles des victimes va se poursuivre, a dit le gouverneur intérimaire, afin de restituer quelques-uns des biens récupérés de la baleinière à leurs propriétaires. Toutefois, l'exécutif provincial de l'Équateur a sollicité l'appui du gouvernement central en vue d'une assistance matérielle et financière aux rescapés qui ont tout perdu, mais aussi pour leur rapatriement à Bolomba, leur provenance, y compris l'accompagnement psychologique des enfants accidentés et qui ont perdu aussi leurs parents dans cet accident. Mbandaka, Paul Chamalingela, Radio Okapi.
Merci beaucoup à vous, Paul-Richard Malengela. Pour rappel, c'était baleinière HB Mapamboli. Une embarcation en bois s'est rendue à Bolomba Centre avec à son bord plus de 300 passagers. Le vice-gouverneur de la province de l'Équateur promet des sanctions contre les auteurs de ces drames. Monsieur Didier Mukoma, vous êtes membre de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, secteur des armateurs. Comment vous expliquez ces nouveaux drames?
Bon, justement, ce sont des cas qui arrive souvent, que nous avons déjà toujours beaucoup déploré. Mais cette fois-ci, nous sommes quand même contents que le président de la République et le gouvernement ont pris quand même des dispositions pour que ces types de catastrophes ne puissent pas arriver. Et nous avons appris aussi qu'il y a aussi une mise en place d'un fonds de financement de la régie des voies fluviales et puis la direction de la marine pour enfin éviter par exemple le manque de balisage et puis bien suivre la sécurisation des unités flottantes.
Alors, vous parlez des dispositions qui venaient d'être prises par le gouvernement. Quelles sont ces dispositions?
Dans les dispositions, c'est-à-dire le président il a demandé à ce que il y a beaucoup plus de rigueur dans la gestion de la chose, disons, du transport fluvial. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu depuis plus de 25 ans. Personnellement, je n'ai jamais entendu un président de la République parler du transport fluvial. Mais aujourd'hui, avec ce que le président vient de faire, je pense que nous pouvons avoir l'espoir de façon que nous puissions éviter ce genre de catastrophes qui nous arrivent régulièrement sur le fleuve Congo.
Oui, M. Mukuma, on ne vous apprend rien. C'est une situation récurrente, n'est-ce pas, qui a poussé le gouvernement déjà à l'époque, à travers le ministre des Transports, Justin Kalumba, dans le gouvernement Matata Ponyo, de prendre une série de mesures. C'était en 2014, dans le cadre du programme d'assainissement des conditions de navigation sur le fleuve et sur le lac congolais. Et parmi ces mesures, les ports obligatoires des gilets de sauvetage, et selon le ministre Kalumba de l'époque, toutes les embarcations naviguant sur les cours d'eau congolais devraient désormais compter autant de gilets de sauvetage que de passagers à bord. À votre avis, pourquoi ces mesures n'ont jamais été respectées?
Ça, c'est un problème que nous avons. Vous savez, nous avons des bonnes lois, nous avons toutes ces lois-là, mais le problème, c'est la mise en application. Il suffit de faire seulement les bruits pour quelque temps et après, personne n'exécute. Il est vrai qu'on avait demandé à l'époque que tout le monde puisse avoir son gilet, mais il y a un problème qui se pose aussi. Le problème est que, vu le nombre de passagers qui se font transporter par des bateaux qui ne sont même pas des bateaux de transport passager, il ne suffirait pas d'avoir... un armateur ne sera pas donné à chaque passager un gilet. Donc, le seul problème que nous avons...
C'est une mesure qui n'est pas réaliste.
En tout cas, pour le moment, du fait que nous n'avons pas de bateaux affectés au transport des passagers, c'est un peu difficile. Donc, la solution est que peut-être nous puissions avoir des bateaux qui sont, affectés au transport des passagers. Et ce type de bateau, ça peut faciliter à avoir les gilets. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un armateur qui a son bateau qui est affecté au transport des marchandises, je pense qu'il aura difficile d'acheter les gilets pour tous les passagers qui voyagent à bord des bateaux.
Donc, il était aussi interdit, n'est-ce pas, toute navigation pendant la nuit et aussi recommandé le balisage du fleuve Congo. Donc, comme vous l'avez dit, ce ne sont pas les mesures qui manquent. Ce qui pose problème, c'est plutôt leur mise en application. Et à votre avis, pourquoi les opérateurs économiques préfèrent naviguer pendant la nuit?
Bon, normalement, vous savez, la vitesse moyenne d'un bateau, vraiment, c'est de 2 km à 6 km à l'heure. Donc, vous voyez, pour faire une distance de 1700 km, ça fait des heures et des jours qu'il faut faire. C'est ainsi que le bateau, on ne peut pas interdire les bateaux de naviguer la nuit, mais on doit interdire les bateaux qui n'ont pas de matériel de navigation nocturne. Ce sont ces types de bateaux-là qu'on ne peut pas accepter à ceux qui puissent naviguer la nuit. Entre autres, dans l'ensemble, les bateaux que nous appelons les petits baleinières, là, ce sont des bateaux qui n'ont pas ce système de navigation nocturne et ce sont ces bateaux qui ne peuvent pas naviguer la nuit. Mais les autres bateaux qui respectent ces conditions, ils peuvent naviguer la nuit sans problème.
Et voilà, parce que vous estimez que ces embarcations que nous utilisons habituellement sur le fleuve Congo n'ont pas, ne remplissent pas ces conditions de navigation, n'est-ce pas, de nuit. Mais pourquoi, en dépit de ça, les opérateurs économiques préfèrent voyager la nuit? Vous êtes vous-même opérateur économique. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Est-ce que c'est beaucoup plus avantageux de les faire pendant la nuit que pendant la journée?
Bon, certains préfèrent la nuit pour éviter les tracasseries des services de l'État. Les autres aussi ils profitent parce que la nuit, il fait tellement frais, le moteur est tellement frais, et ils naviguent sans difficulté par rapport à la journée. La journée, quand il y a la chaleur, le moteur chauffe, des fois, alors ils ont beaucoup de difficultés de naviguer la journée. Mais beaucoup d'armateurs, surtout ceux des petites embarcations, ils évitent le service de l'État dans des ports.
Oui, mais vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi l'État a semblé entretenir ces laissés-aller parce qu'on ne sent pas, n'est-ce pas, l'État intervenir ni en amont ni en aval. Qu'est-ce qui se passe?
Justement, c'est ça le grand problème que nous avons. Il y a quand même un laisser-aller par rapport disons à la sécurité de la navigation. Vous remarquerez que le service qui est habilité à mettre de l'ordre dans le système de navigation ne s'en occupe pas. Ils se contentent seulement de percevoir l'argent. Après, le reste, ce n'est pas leur problème. Et aussi, il y a aussi un problème de compétences. Vous remarquerez que les gens qui sont affectés pour la surveillance des bateaux, ce sont des gens qui n'ont pas étudié dans ces domaines-là. Parce que pour, par exemple, savoir les tirants d'eau d'un bateau, les chargements d'un bateau, ce sont des choses qu'on étudie. Mais si vous prenez un frère, ou bien c'est un beau frère que vous mettez au poste d'un commissaire fluvial, parce que ce sont les commissaires fluviaux qui sont chargés à donner des permis de sortie au bateau. Et ce sont eux qui sont aussi responsables dans des conditions pareilles. S'il y a un bateau qui n'a pas accompli les normes et qu'il a été laissé ou bien qu'il a obtenu un permis de naviguer, alors à ce moment-là, c'est le commissaire fluvial qui est fautif. Donc je pense que c'est un problème aussi de la direction de la marine qui est une direction chargée à respecter les normes dans le secteur de transport fluvial.
Et à votre niveau, au niveau de la FEC, vous n'envisagez rien pour essayer d'organiser ce secteur, et notamment en sensibilisant ces opérateurs dans ce secteur-là, et notamment pour leur faire comprendre qu'ils doivent utiliser des gens qui sont employés, des gens qui sont formés. Quelles sont les initiatives que vous avez déjà prises jusque-là?
Vous savez, le problème, c'est ça aussi. Il y a beaucoup des sociétés qui travaillent dans la clandestinité et tous les amateurs ne sont pas affiliés à la FEC. Et pourtant, je pense que si normalement l'État prenait des dispositions pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, tout opérateur économique, avant d'accéder dans un secteur, doit passer par une affiliation obligatoire dans une des chambres de commerce ou soit un syndicat de son choix. Et je pense que ça pouvait faciliter à ce que nous puissions connaître qui est armateur, par exemple, et qui ne l'est pas. Et à notre niveau, nous avons aussi relancé à plusieurs fois le ministère de transport, parce que vous savez, il y a déjà une loi qui existe, qui a créé ce qu'on appelle Conseil supérieur de la navigation. Et ce Conseil supérieur de la navigation, c'est un organe qui réunit toutes les parties prenantes du secteur. C'est-à-dire, nous avons le ministère de l'Intérieur, nous avons le ministère de la Défense, nous avons le ministère des Transports, nous avons la Présidence. Et toutes ces parties se réunissent régulièrement pour résoudre des problèmes qui ont rapport avec le secteur de transport fluvial. Mais la loi existe, mais cet organe n'a jamais été mis en application. Donc, je pense que c'est un conseil qui, si on mettait ce conseil en place, ça pourra résoudre beaucoup de problèmes et pourra éviter déjà des drames qui nous arrivent.
Le balisage du fleuve Congo n'est pas souvent fait, alors que quand il n'est pas fait, ça insécurise non seulement les armateurs, mais aussi les passagers. Et est-ce que la FEC a déjà tenté, n'est-ce pas, de se plaindre auprès du gouvernement qui doit faire ce travail-là au sujet du fait qu'il n'y a pas, le fleuve n'est pas balisé?
Vraiment, ça, c'est une chanson de chaque jour. Ça fait depuis des années, ça fait plus de 20 ans que je suis président des armateurs à la Fédération des entreprises du Congo. Et chaque jour, dans nos interventions, nous avons toujours demandé à ce qu'on puisse donner des moyens, des possibilités à la régie des voies fluviales pour qu'ils puissent entretenir les voies navigables. Chose qui n'a jamais été faite. Souvent, vous remarquerez que ce sont des balisages qui ne sont pas permanents, qui ne sont pas réguliers. Et comme vous le savez, le balisage, normalement, il doit être régulier sur le fleuve, parce que notre fleuve est tellement trop mouvant et qu'il faut souvent, chaque jour, qu'il y ait toujours des balisages qui passent pour vérifier l'état de navigabilité. Mais là, aujourd'hui, nous sommes contents parce que nous avons appris que le président de la République a demandé à ce qu'on puisse mettre les fonds dont j'ai parlé tout à l'heure, donc les fonds qui pourra financer la régie des voies fluviales. Je pense qu'on pourra trouver une solution à ces problèmes de manque de balisage sur le fleuve Congo.
Merci, on vous garde encore dans cette émission. Monsieur Fabien Mungunza, est-ce que vous êtes là? Voilà, on me dit que Monsieur Fabien Mungunza, président du cadre de concertation de la société civile de la province de l'Équateur, n'est pas encore là. Serge Pangou, vous êtes professeur d'université, vous êtes géographe et hydrologue. Comment vous analysez cette situation, cet énième drame sur le fleuve Congo?
Bien. Monsieur le journaliste, d'ailleurs, je vous salue et je salue tous les auditeurs de Radio Capi. Vous savez, nous parlons de ce sujet depuis très, très, très longtemps. Et dans le cadre de notre spécialisation, justement, nous avons dû accompagner plusieurs acteurs, notamment le projet PANAV qui a essayer de baliser un peu les fleuves et les Kassai, et nous avons accompagné la GIZ. Nous travaillons jusqu'à aujourd'hui en collaboration avec la direction des ressources en eau. Nous sommes experts au bassin du Nil, c'est-à-dire que nous connaissons le problème très très bien. Bien, au-delà de du fait qu'il y a tout ce que les autres disent, ça c'est clair. Vous avez entendu le président des armateurs, que je connais, M. Kalmbach, que je connais bien. Mais le problème, il faut pas l'aborder de manière superficielle. Heureusement qu'à la fin, il reconnaît que le vrai problème, c'est que la RVF ne manque pas de techniciens. Aujourd'hui, elle ne manque pas de matériel, mais elle manque des fonds de roulement. Parce que faire le balisage demande un effort des entrants, comme les carburants, comme les balises, de manière constante. Et la RVF en elle-même ne peut pas être capable de faire ce travail-là. Je commencerai par le commencement. Le vrai problème, c'est une application de ce qui existe comme lois et règlements à la matière de navigation. D'abord, la grande loi, déjà promulguée en 2015, la loi de l'eau, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas trouvé encore des mesures d'application. Deuxième chose, dans le cadre de cette application, de cette loi de l'eau, il y est prévu un office congolais de l'eau. Et cet office-là a, entre autres, pour mission de justement canaliser tous les efforts, tous les fonds, tout ce qui est comme énergie pour essayer de gérer l'eau de manière intégrée et durable. Et la navigation se trouve être une ressource en eau, qu'on le veuille ou pas. Mais maintenant, vous voyez que le gouvernement a pris de contact avec la Banque mondiale. Je vois qu'ils sont en train maintenant, seulement maintenant, de tenter de lancer les premières études pour l'opérationnalisation de l'OCE, et cela malgré que le décret a été pris par le président de la République, l'ordonnance, le décret du Premier ministre Poutou, depuis le 2 mars 2021 ou 2022, quelque chose comme ça. Et dans le cadre de la transition écologique, nous avions fait des ateliers à l'époque avec le coordonnateur adjoint de la transition écologique, le professeur Santé-Dieu Minengou. Nous avons fait des ateliers auxquels ont pris part les secrétaires généraux de transport, les présidents directeurs généraux de la RVF, de la CVM, de tout le monde. Et même, tous ces ateliers ont abouti à créer ce que, à mettre en place ce que nous appelions la loi, le fonds de l'eau. Oh là là. Le fonds national, à la manière de FONEF, de FONER. Nous avions mis au point le FONER, c'est-à-dire Fonds national pour la
L'entretien.
Pour l'entretien de voie fluviale lacustre. Alors, maintenant, vous avez suivi le mois dernier ici, il y a 2-3 mois. Heureusement, cette fois-ci, le gouvernement a pris cette mesure de revenir sur ce dossier. Je crois que son excellence, Monsieur le Président de la République, quand il parle de faire de voies, le prolongement, les voies fluviales, le prolongement du transport, nous savons que notre transport ici, on l'a toujours voulu multimodal. Or, parlant des morts, parlant des accidents, on n'a pas d'autre solution que le balisage permanent. Ça, c'est la première chose. Des deux, nous n'avons plus des ports viables, si on doit bien voir. Et tout cela se résume au manque de fonds, manque d'argent qui peut servir cette cause. Et donc, moi, je trouve qu'aujourd'hui, si on veut recommencer si on veut aller dans le bon sens, on doit refaire d'abord ce travail de fond, c'est-à-dire implanter le FONEF, revenir sur l'ancienne époque, quand nous étions enfants, vous saviez que l'ONATRA avait des ports, et ces ports servaient au fait aussi des postes de contrôle. Aujourd'hui, vous arrivez dans une grande ville comme Banounville, et tous les ports de l'ONATRA, et la nuit, il est noir, il n'est pas balisé, donc personne ne sait qui vient la nuit, qui part. Et c'est la même chose partout. Donc, même en Bandaka, vous voyez que l'accident là, a eu lieu pas loin. Pourquoi? Parce que simplement, on a confié cette tâche à la RVF, mais la RVF, jusque-là, elle-même ne sait pas comment conduire cette tâche.
Professeur Serge Pangou,
que le FONEF.
Oui. Oui, donc vous voulez dire qu'il était possible d'éviter cet accident qui s'est produit le week-end dernier?
Comment possible? Parce que le FONEF, là dont je parle, on l'avait créé depuis longtemps, mais je ne sais pas à quel niveau. Le texte a été bloqué, alors que tout, on avait même répertorié qui était contribuable, quelles étaient les sources des revenus de cet office-là, qui était national.
Et donc les FONEF. Professeur Pangou, les FONEF, oui. n'est jamais alimenté jusque-là. On n'a jamais commencé à l'alimenter.
Non, jamais. Il ne fonctionne même pas. Il ne fonctionne pas. Parce qu'il n'a jamais été mis en application. Les décisions ont été prises, mais tous les textes qu'on a rédigés, j'espère que maintenant on va le faire, sont restés lettres mortes jusqu'à aujourd'hui. Le FONEF n'est pas opérationnel. Et je vous dis aussi, l'OCE qui a été créé déjà sur le plan juridique n'a toujours pas été créé, n'est pas toujours opérationnel. Donc, le vrai problème, c'est un problème, comme venait de dire mon prédécesseur, c'est pas un problème de texte ou des structures qui manquent. C'est une question de volonté. De volonté de savoir mettre en place, de savoir opérationnaliser les différentes mesures qui ont été prises et qui existent déjà.
Oui,
donc,
Professeur,
avec les pays actuels, avec le changement climatique, vous savez que parfois le fleuve, il devient un monstre, parce qu'il y en a qui parlent le haut de leur bureau, ils savent pas ce qui se passe sur le fleuve. Le fleuve là, c'est un monstre, il faut pas jouer avec. Et ça, c'est ce que vous apprenez. Mais les pêcheurs qui disparaissent la nuit, vous le savez pas. Donc, on n'en parle pas. Et c'est tous les jours. Donc, il faut vraiment que l'État, cette fois-ci, puisque le président lui-même est, je lui tire un chapeau bas, il a pris le problème par le taureau par les cornes, donc il faut vraiment qu'on aille jusqu'au bout, qu'on implante l'OCE, qu'on implante le FONEF, et qu'on dote des moyens l'ONATRA, la RVF, et tous ceux qui interviennent dans le secteur de la gestion des plans d'eau pour que nous puissions avoir un balisage constant et sécuriser nos voies d'eau.
Oui, voilà un peu ce que...
je peux dire
oui,
pour le moment.
Merci, professeur. Mais s'il faut revenir, n'est-ce pas, à ce qui doit être la part des amateurs, et les amateurs ont toujours allégué qu'ils ne trouvaient pas sur le marché congolais, vous avez suivi M. Mokoma, ils ne trouvaient pas sur le marché congolais suffisamment de gilets de sauvetage pour équiper leurs embarcations. Et à votre avis, vous, en tant qu'expert, face à ces déficits, quelle peut être l'alternative? Il n'y a pas de gilets de sauvetage. C'est quoi l'alternative, à votre avis?
C'est très, très bien. Très bien. Monsieur le journaliste, vous voyez vous-même que je veux bien suivre Monsieur Mokouba, mais j'en rigole un peu. Parce que, écoutez, comment vous pouvez embarquer quelqu'un sans lui garantir le minimum de sécurité? C'est quand même pas normal non plus. Ce n'est pas les gilets de sauvetage qui manquent, hein. Les gilets de sauvetage, vous les commandez aujourd'hui, dans 2-3 semaines, vous les avez, hein. À n'importe quel nombre. C'est pas des trucs très difficiles à fabriquer, hein. Mais le problème, c'est que nos armateurs, comme lui-même l'a reconnu, vous voyez qu'on dit qu'il fuit les services de l'État. Alors, avec quoi l'État va entretenir la voie quand ceux qui profitent de la voie n'aiment pas payer? Donc, pour eux, ils viennent la nuit et il y a des supermans auxquels on ne demande rien parce que si vous touchez, vous avez des coups de téléphone partout, vous êtes obligé d'abandonner, n'est-ce pas? Et donc, ce qui signifie que cette décision, cet argument de M. Kalumba, moi, parce que pour quelqu'un qui est armateur, qui s'est dit armateur, il fait de l'argent.
Monsieur Mokoma, pas Kalumba, monsieur Didier Mokoma.
Mokoma, oui. Donc monsieur Didier, lui, il est le patron des patrons des armateurs. Donc, il sait, je sais que lui, en tant qu'armateur, il ne peut pas dire autre chose. Mais moi, je dis, est-ce que lui-même dit que les embarcations là ne sont pas appropriées? Mais pourquoi, bon sang, on les laisse alors circuler? Mais maintenant qu'on déplore des morts d'hommes, comment nous allons réparer cela? Vous comprenez que, quelque part, il manque seulement le contrôle, c'est-à-dire le suivi de cette navigation. Et maintenant, l'État doit actionner les outils qu'il dispose. Je vous ai dit, l'État a le service. Il a les inspecteurs fluviaux, mais surtout l'État doit avoir une police fluviale formée et opérationnelle. Or, cette police fluviale formée opérationnelle ne peut trouver de la motivation que dans l'existence du FONEF et de l'Office congolais de l'eau, parce que ce sont les deux outils qui donnent à la navigation les moyens de sa politique. Sans ces outils-là, sans l'opérationnalisation de ces outils, vous voyez, quand on manque déjà des gilets, mais c'est rigolo pour un fleuve. Regardez, de Kinshasa qui s'en allait, ça fait 1730 kilomètres, monsieur le journaliste. C'est pas de la blague. Et lui-même vous a dit que le bateau, il fait 2 km à heure. Donc, quand vous allez à Kisangani, vous allez avoir la pluie, vous aurez les vents, donc vous vous exposez à un danger sans limite.
Alors,
on est à penser que il faut que ces armateurs continuent quand même à exploiter la voie, mais sans payer le prix. Parce que s'ils n'ont pas des gilets, déjà ils ne devaient pas embarquer les gens. C'est ça le problème.
Oui, mais on apprend. Vous avez tendance, n'est-ce pas, à incomber la faute aux seuls armateurs, mais on apprend que les agents de l'État dans ces secteurs-là sont complices de ces armateurs.
Oui, exactement. Mais il a parlé de tracasserie. Vous savez, c'est bon. C'est un patron. Il est vraiment très poli. Parce que qu'est-ce qu'on appelle tracasserie, monsieur le journaliste? C'est-à-dire qu'ils sont des ils se font corrompre, ce qui n'est pas. Mais vous voyez maintenant, après que eux ils ont empoché quelque chose, à la fin ils se retrouvent avec des explications fournies par rapport à des pertes de vies humaines. je trouve que c'est beaucoup trop irresponsable.
Et donc, on peut conclure en disant que c'est tout le monde qui a, n'est-ce pas, démissionné de ses responsabilités, l'État comme les armateurs.
Ce qu'on fait de voies navigables n'est pas optimal. C'est-à-dire qu'on pouvait faire mieux. Mais je vous dis que la seule solution, c'est d'activer les outils de gestion étatique qui sont le FONEF et l'Office congolais de l'eau. Et vous allez voir que tout ça va changer. Parce que ces offices-là ne vont s'occuper que de ça.
Merci.
Et donc, puisqu'ils sont conçus pour ça. Merci beaucoup.
Merci.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà. Est-ce que, Fabien Mungunza, la société civile n'est toujours pas là. Et nous allons donc donner la parole aux auditeurs qui ont donné leur point de vue par rapport à ces sujets. Et donc, pour Didier Mukoma, nous allons écouter cette réflexion de l'auditeur qui intervient depuis la ville de Kinshasa. Il s'appelle Jarté.
Japhet Eunga depuis la ville province de Kinshasa. Les naufrages en répétition sur le fleuve Congo incombent au gouvernement congolais qui est incapable d'imposer son autorité sur les responsables de ces baleinières. La population est abandonnée par le gouvernement congolais. Prévenez que si vous descendez au port de Maluku, vous allez voir comment nos frères voyagent. Vraiment, c'est inhumain. Au XXIe siècle, ce genre de transport est resté uniquement dans notre pays. En effet, pour éviter que cette situation puisse se répéter encore, le gouvernement doit interdire les convoyeurs de naviguer pendant la nuit. Le gouvernement doit acheter des bateaux afin d'éviter des morts à répétition. Les convoyeurs qui ne vont pas respecter des mesures prises, qu'ils doivent être sanctionnés selon les rigueurs de la loi.
Voilà, vous avez compris, c'est M. Japhet. M. Didier Mukoma, votre réaction?
Je voudrais d'abord commencer par ce qu'a dit le professeur et ce que vous avez dit aussi par rapport au gilet. Je disais que d'abord, je voulais d'abord vous faire savoir qu'il n'existe pas sur le fleuve Congo des bateaux qui sont habilités à transporter les passagers. Et tous les bateaux qui sont sur le fleuve Congo...
Qui sont habilités à transporter les passagers.
Oui, tous les bateaux qui sont là sont des bateaux cargo. Ces bateaux n'existent pas, ce sont des bateaux marchandises. Vraiment. C'est pour cela vraiment que les gens sont assis au-dessus des marchandises. Dans des conditions vraiment inhumaines.
Et donc, on comprend pourquoi il y a ces accidents récurrents.
Justement, ça, c'est une des causes capitales qui fait qu'il y ait beaucoup d'accidents. C'est parce que tous ces passagers-là, ils voyagent c'est sur des bateaux cargo, des bateaux qui transportent des marchandises.
Alors, comment on en est arrivé là, jusqu'à banaliser même la mort? Parce que c'est des dizaines, chaque fois qu'il y a accident, qu'il y a naufrage, c'est des dizaines de victimes. Comment on peut arriver jusqu'à banaliser la mort?
Justement, c'est ça là-bas. Tu sais, à l'époque, il y avait des bateaux de transport des passagers. On avait des Kokolo, on avait des Gungu et tous ces bateaux-là transportaient les passagers. On n'avait pas de problème de passagers sur les bateaux cargo. Mais aujourd'hui, que ces bateaux ne naviguent pas, c'est un problème. Aujourd'hui, on va arranger les problèmes de la navigation, on va sécuriser les unités. Mais comment ces passagers vont voyager? Et quand vous savez, Mbandaka, la province de l'Équateur, c'est une province qui est enclavée. Le seul moyen permanent qui peut leur faciliter le déplacement, c'est la voie d'eau. L'avion n'est pas accessible à tout le monde, il n'y en a pas même assez. Donc toute la population de l'Équateur a un seul moyen de transport, c'est la voie d'eau. Et comment on va faire pour qu'ils puissent se déplacer pour arriver là-bas? La seule solution est que l'État puisse revoir avec l'ONATRA. Et aujourd'hui, par exemple, nous avons, je crois, deux ou trois unités à l'ONATRA qui sont en état de navigabilité et qui ne sont pas utilisées par faute de moyens de faire des fonctionnements. Donc il suffit que le gouvernement puisse avoir cette volonté de financer l'ONATRA de façon qu'il puisse faire naviguer ces bateaux. À part les bateaux dont je viens de citer, Kokolo, Gugu, il y a aussi le bateau Kamanyola. C'est un bateau qui a été refait. Donc tous les fonds ont été refaits. Les moteurs sont impeccables, mais ce bateau-là, il est stationné au chantier naval de l'ONATRA. il ne fait rien.
Donc, et donc, toutes les mesures qui peuvent être prises ne serviraient à rien aussi longtemps qu'on ne va pas doter des pays, des bateaux
appropriés. Non, ils serviront toujours à quelque chose parce que ça fait partie des facteurs qui font que nous ayons des problèmes. Et pour revenir maintenant à l'auditeur qui avait intervenu par rapport aux surveillances des bateaux, je venais de le dire à mon introduction, ça c'est un problème que nous avons. Le problème de sécurisation des bateaux. Donc, il y a une négligence au niveau de l'administration. Donc, on laisse les bateaux qui ne sont pas en ordre de voyager. Et aussi, vous remarquez, normalement, le commissariat Fivia, c'est une police. Elle doit travailler 24/24. Alors, vous remarquez, à partir de 17h ou bien à partir de 15h, tout le monde emballe ses sacs, il part, et puis il laisse le port vide, ce qui n'est pas possible. Nous connaissons à l'époque, les ports étaient sécurisés 24/24. Tous les services-là, que ce soit la DGM, que ce soit les commissaires Fivio, devaient avoir des équipes qui devaient travailler 24/24 pour surveiller les unités fiviales. Donc, ce que l'auditeur vient de dire tout à l'heure, c'est vrai, il faut que l'État puisse un peu renforcer les contrôles sur les unités qui ne sont pas en ordre et qui ne sont pas aussi en état de navigabilité.
Oui, parce que vous reconnaissez qu'il y a une certaine négligence, n'est-ce pas? Je pense que c'est ça, c'est de la part de l'État. Mais maintenant, quelle est la part de la FEC dans tout ça? Quand vous vous rendez compte qu'il y a une cacophonie sur le terrain, personne ne semble disposé, n'est-ce pas, à réglementer ces secteurs-là, qu'est-ce que la FEC fait?
Bon, ce que nous faisons, c'est toujours prendre des contacts et puis avec les autorités pour leur faire voir que voilà, il y a telle chose qu'on ne voit pas, nous devons nous mettre ensemble pour que nous puissions trouver des solutions. Et comme vous le savez, il y a 3-4 ans, on avait pris des mesures de suspension de certaines taxes, mais c'était quelque chose de 3 mois et après, on a pris parler de ça. Donc, ici, le problème est que si nous prenons des décisions, ces décisions doivent être respectées et jusqu'à la fin. Mais le problème est qu'on n'arrive pas à mettre en application ces résolutions. Et même s'ils sont mises en application, c'est pour une courte durée. Donc, de notre côté, nous faisons la sensibilisation. Mais il est difficile, par exemple, pour nous de prendre des dispositions par rapport, par exemple, aussi au personnel navigant. Aujourd'hui, moi, mon bateau, je peux le charger, par exemple, de 200 tonnes, 300 tonnes. Mais, arrivé en cours de route, il y a l'équipage, en collaboration avec certains services de l'État, qui vont surcharger le bateau, et l'armateur n'est pas au courant. Les bateaux, là, par exemple, qu'on a chargés à Mandaka, personne ne sait même pas le tonnage réel pour lequel on a chargé. Les passagers, c'est toujours la même chose aussi. Pour le moment, nous avons difficile. Les bateaux, là, on a des difficultés de vous dire combien de passagers étaient à bord de ça.
On parle officiellement de 300 personnes.
C'est pas officiel. Si vous demandez le manifeste, ça n'existe pas.
Voilà. Il y a quelqu'un qui a réagi, n'est-ce pas, sur Facebook. Il dit, à mon avis, tout ça arrive à cause de la mauvaise gestion du pays. Un gouvernement responsable doit contrôler l'embarcation et la débarcation, c'est lui qui l'a dit. Et malheureusement, notre pays ne parvient pas à bien les faire, même comment sa population, ça c'est lui qui l'a dit, hein, comment sa population se déplace, comment sa population se nourrit, c'est vraiment nos condoléances aux familles éprouvées. Et professeur Serge Pangou, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui appelle depuis Kisangani, province de la Tchopo. Non, depuis Kisangani, province de la Tchopo.
Je vous appelle à partir de Kisangani dans la province de la Tchopo. Il est inconcevable qu'en plein 21e siècle, les gens arrivent à se déplacer avec des troncs d'arbres où ils peuvent couler en multitude à cause de la mauvaise politique sectorielle en la matière. Si vous parcourez le pays, surtout là où le fleuve Congo passe, vous y trouverez des baleinières qui sont fabriquées à la longueur de la journée. Et l'État congolais n'arrive pas, à travers ses services, à maîtriser les mouvements de la population, surtout en matière de la délivrance des manifestes qui déterminent le nombre exact de personnes qui peuvent se retrouver dans les embarcations, mais aussi interdire la circulation de ces engins qui arrachent des vies humaines sans pardon. L'État congolais doit inciter les opérateurs à mettre des moyens capables de construire des bateaux qui peuvent assurer la circulation des personnes sur les eaux du fleuve Congo.
Professeur Serge Ipangou.
Allô, oui.
Oui, votre réaction.
Problème. Oui, allô.
Vous avez suivi l'auditeur?
Oui, bon. J'ai suivi un peu parce que j'avais il y a quelqu'un qui m'appelait en attendant, il a essayé de couper l'antenne. Bon, j'essaie de comprendre que comme a dit notre premier auditeur de Kinshasa, il revient sur le même problème. Mais moi je trouve cette façon de raisonner comme si nous faisons toujours marche arrière. C'est-à-dire que voilà, nous tous nous disons bien l'État, mais Monsieur le journaliste, qu'est-ce que c'est l'État, au fait? L'État, c'est un territoire avec ses citoyens. C'est ça qu'on appelle l'État. Et donc, quand vous voyez bien, lorsque vous dites, je vous donne un petit exemple, vous dites dans votre maison, écoutez, ma femme va balayer la maison. Et là-bas, la femme dit, ce sera la bonne. Et la bonne dit, non, ce sera la sentinelle. Et donc, à la fin, vous allez voir que votre maison ne sera jamais balayée. Et donc, ici, le problème, il est celui-ci. Un, d'abord, au niveau de l'État, nous l'avons assez dit, c'est devenu une chanson, comme avait dit M. Didier tout à l'heure, c'est tout le temps qu'on parle de ça, et puis bon, espérons que cette fois-ci, la sonnette d'alarme tirée par son existence, M. le Président de la République, sera enfin suivie. Mais moi, je me dis que et l'Afrique, et l'État, et les passagers, et les armateurs. Donc, c'est toujours des Congolais, la majorité en tout cas, tous. Et donc, les responsabilités sont partagées, de telle manière que, un, celui qui monte dans le bateau, il monte d'abord presque de force, parce qu'il n'a pas d'autre choix. C'est là que je condamne un peu l'État. Et j'appuie le président de la FED quand il dit que nous n'avons pas de bateau et ils n'ont rien à faire. Moi, je sais que pour aller à Kisangani, amener, par exemple, aller vendre quelque chose à Kisangani, tu ne peux pas prendre l'avion, ça va coûter trop cher. Mais lorsque on veut parler avec, on veut aller à Kwamout, c'est pareil. On veut aller à Bandounouville, c'est pareil. Maintenant que la route a même été dérangée par les Mobondo et consorts. Et quand on veut aller à Port-Franqui, comment il est beau, c'est pareil. Et donc, quand on quitte Goma pour aller à Bukavu, c'est pareil. Quand on quitte Uvira pour aller à Kalemie, c'est pareil. Donc vous comprenez que c'est un problème qui est généralisé. Et le fond, au fait, c'est un manque. Comme a dit M. Didier, c'est un manque de fonds de roulement des entreprises, de toutes les régies qui sont commises à ce travail. Ils n'ont pas de fonds de roulement.
Professeur Serge Bangou, je rappelle que vous êtes professeur d'université, vous êtes géographe et hydrologue. Lorsqu'on vous suit très bien, ainsi que M. Mukoma, on comprend ici que les responsables numéro un, c'est les gouvernements congolais, c'est l'État congolais. Et vous avez dit que cette fois-ci, il y a une certaine volonté qui commence à se manifester, oui. Mais même à l'époque, dans les régimes, avec les régimes passés, on sentait, chaque fois qu'il y avait des morts, les gens parlaient, dénonçaient, prenaient des mesures pour, n'est-ce pas, prévenir ce type d'accident. Mais après, on se rendait compte que rien ne se faisait sur le terrain. Cette fois-ci, qu'est-ce que vous, en tant qu'expert, qu'est-ce que vous pouvez proposer et recommander et au gouvernement, et à la population, et aux armateurs, pour que cette fois-ci, les choses puissent marcher comme il se doit?
Voilà. D'abord, un, au gouvernement. Au gouvernement, j'ai dit que le gouvernement a déjà mis en place de manière tout à fait conceptuelle les outils qui peuvent lui faciliter la gestion de ces secteurs.
et j'ai bien cité. Il s'agit de l'Office congolais de l'eau et du Fonds national d'entretien de voies fluviales et lacustres. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, si l'État veut agir dans ce domaine, il doit commencer par ces deux institutions-là. Pourquoi ? Sans ces institutions, tous les autres vont commencer à agir comme ils agissent maintenant. Parce que l'OCE, c'est l'autorité qui gère d'après la loi, de 2015, de l'eau. C'est l'OCE qui doit gérer les ressources, qui doit conduire, définir les politiques national de gestion des ressources en eau au Congo. Et sans l'opérationnalisation de cet office, c'est comme si chacun balaye devant sa maison, mais personne ne s'occupe de la rue.
Et à la population, vous recommandez quoi?
Le FONEF... Non, je termine. Alors, le FONEF, lui, va donner à l'État les moyens de sa politique. À la population... Vous savez, comme je l'ai dit, la population n'a pas beaucoup de choix. Il faut la comprendre. Elle est enclavée, comme a dit M. Didier tout à l'heure. Mais aussi, la résilience. Il faut, comme vous avez dit, vous avez utilisé un mot qui m'a choqué. On banalise la mort, là. Or, banaliser la mort, je ne sais pas. Alors, on protège encore quoi? Quand on banalise la mort, c'est-à-dire que la vie elle-même n'a plus de sens. La population doit quand même aussi résister de temps en temps. Parce que on vous embarque comme des cochons, et puis on vous donne aucune garantie, mais vous y allez quand même. Ça, c'est dangereux aussi. Et vous savez que notre population, elle fait toujours des marches pour appuyer les politiciens, mais elle n'a jamais été capable de parler d'elle-même. Donc la population doit aussi dénoncer certaines choses qui se font nuit à l'avant. Le président des armateurs vous dit lui-même, reconnaît lui-même, que lorsque vous vous regardez, ce sont des gens qui naviguent la nuit pour fuir les taxes et ce qu'on appelle les tracasseries. Merci. Il n'y a pas que des tracasseries, il y a aussi des droits payés à l'État.
Merci,
professeur. Alors, pour la population... La population doit d'abord commencer par dénoncer les pratiques obscures et dangereuses, parce que c'est elle qui se met en danger. Maintenant, si vous regardez là-bas, l'armateur n'est pas mort. Peut-être qu'il est sorti. C'est seulement les autres qui sont morts. Et donc l'équipage doit être sauvé, parce qu'eux, ils connaissent l'eau, ils savent comment se débrouiller. Et donc, moi je trouve, à ce niveau, la population... doit devoir se protéger, parce que quand on vous laisse à la merci de la mort comme ça, je crois que la dernière solution, c'est de se protéger.
Merci. Mais donc la population doit s'en protéger. Merci beaucoup. Monsieur Mukoman, nous allons aussi écouter, je crois qu'il y a une autre réaction qui nous vient des Isangi ou des Kisangani. Isangi, voilà. Monsieur Mukoman, vous allez réagir par rapport à cette réaction.
Boyenzi Sanduku, j'y reste depuis Isangi, province de la Tchopo. Mes sincères condoléances aux familles éprouvées. En République démocratique du Congo, la vie humaine n'est plus sacrée, car nous assistons toujours à des naufrages et il n'y a aucune garantie de la part du gouvernement central, moins encore du gouvernement provincial. Aujourd'hui, nous sommes à quelques jours des élections générales en République démocratique du Congo, mais il y a toujours des naufrages en répétition. Le mois dernier, ici, c'était le camp dans la province de la Tchopo, territoire d'Isangi, où une baleinière s'est chavirée. Jusqu'à présent, le nombre des morts n'est pas connu et le nombre des disparus, même chose. Pour qu'il y ait plus de naufrages sur les fleuves Congo, le gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires et réglementer la navigation. Pas de navigation nocturne et que le gouvernement doit aussi prendre les dispositions sur l'utilisation des baleinières en bois. Le gouvernement, à travers son programme de développement de 145 territoires, au lieu seulement de construire les bâtiments administratifs, les écoles, les hôpitaux, les routes, pour ne citer que cela, il a l'un de leurs obligations de
de doter à chaque entité territoriale un moyen de transport approprié afin de bien protéger la population ainsi que leurs électeurs.
Monsieur Didier Mukoma, je rappelle que vous êtes membre de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, secteur des armateurs, et en plus, n'est-ce pas, de la réponse que vous allez apporter à la préoccupation de l'auditeur, et s'il y a une recommandation à faire à l'endroit des armateurs, parce qu'ils ont une part importante, n'est-ce pas, et par rapport à ce qui se passe actuellement au sujet de tous les accidents que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui, répondez à la préoccupation de l'auditeur et puis faites des recommandations à vos amis opérateurs dans ce secteur-là.
Par rapport à l'intervenant de tout à l'heure, je dis que c'est vrai, il a raison, ce sont des problèmes qui arrivent régulièrement, mais je pense qu'avec la volonté du pouvoir actuel, nous sentons quand même qu'il y aura des interventions, comme venait de confirmer le professeur Serge aussi tout à l'heure. Donc il y aura un fonds qui sera mis à la disposition de la régie des voies fluviales pour que le balisage soit effectué, parce que c'est un des grands facteurs aussi qui fait qu'il y ait beaucoup d'accidents. Et nous avons demandé aussi à ce que le gouvernement puisse voir comment mettre en place des bateaux de transport passagers. Ou soit s'il n'a pas de moyens, il pourra voir avec certains armateurs, certains privés, qui peuvent le faire, mais avec une subvention.
Et à l'endroit des armateurs ?
Et à l'endroit des armateurs, je demande à ce que les armateurs puissent être unis d'abord dans des associations pour que nous ayons des échanges fructueux, parce que vous remarquez que beaucoup d'armateurs qui sont en train de commettre beaucoup de cas pareils, ce sont des gens qui évoluent dans les clandestinités, ce sont des gens qui ne sont pas reconnus. Et s'ils veulent vraiment nous rejoindre dans nos associations, cela pourra faire que de façon qu'ils puissent avoir toutes les informations fiables afin qu'ils puissent faire fonctionner leur établissement comme il faut, en évitant qu'il y ait beaucoup de problèmes dans la navigation.
Merci, nous terminons cette émission par là. Merci à monsieur Didier Mukoma et au professeur Serge Pangou d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci aussi à Pierre Diassinois qui était à la technique avec la participation de Mimi Kindou et aussi à Dona Madimba qui l'a réalisé. Pour les lives, il y a Jonathan Fonani, Clément Chimanga et Hervé Voka sous la supervision de Martin Sebjangwe. À la présentation, Guy Maté. Merci une fois de plus et bon suite de programme sur Radio Capi.